Au coin de ma rue, il y a de nombreux bruits de Noël. Au coin de ma rue, il y a les bruits du marché de Noël. La musique de l'animateur du jour, le crissement de la pâte à crêpes, les cris des enfants impatients, les dialogues trop forts de ceux qui, verre de bière à la main, essaient de s'entendre. Au coin de ma rue, il y a le bruit d'une plainte, celle d'une femme affichue, portant un enfant endormi et main tendue. Litanie de celles et ceux venus d'ailleurs, avec des codes sociaux et familiaux que nous ne comprenons pas et qui n'ont pas de lieu pour poser leur tête. Au coin de ma rue, il y a le bruit des rires de deux petites filles se tenant par la main, sautillant avec leur cartable, riant des dernières nouvelles de la cour de récré. Au coin de ma rue, il y a le bruit du moteur de la camionnette du livreur. De l'arrière du véhicule sont débarqués de multiples paquets qui rejoindront les pieds des sapins. Au coin de ma rue, il y a encore les bruits de la colère, défilés d'hommes et de femmes qui, drapeaux et revendications en étendard, dégoût du monde en bandoulière, se battent encore et encore pour leurs droits. Au coin de ma rue, beaucoup de bruit de Noël. De Noël ? Pour les rires des enfants, oui, Noël est pour eux. Pour le marché de Noël et la camionnette du livreur, cela peut passer. Mais pour les autres bruits, ceux de l'étranger qui mendie et de l'homme en colère, où est Noël ? Le texte biblique du chapitre 2 de l'Évangile de Luc commence par cette histoire de recensement ordonnée par l'empereur César Auguste et orchestrée par le chef local, le gouverneur Quirinus. Nous passons toujours très rapidement sur cette histoire de recensement. C'est sûr que l'administratif n'a jamais été exaltant pour personne. Un recensement, c'est un comptage de la population, dont l'objectif, à cette époque, était politisé. Le monarque voulait connaître le nombre de ses sujets et ainsi jauger s'il pouvait, par exemple, s'engager dans une guerre ou bien quelle marge il pouvait avoir pour lever l'impôt. Le recensement était dès lors, dans nos mots actuels, une problématique politique et sociale. Et chaque recensement était marqué par des soulèvements de personnes s'estimant oppressées par l'occupant. Il y avait également une problématique théologique, car dans la culture juive, seul Dieu peut recenser son peuple ou en donner l'ordre. On lit par exemple cette phrase de David qui, sous le coup de la colère divine, s'était permis d'ordonner un recensement de ses troupes avant de le regretter dans le livre de Samuel. David sentit son cœur battre après qu'il eut ainsi dénombré le peuple et dit au Seigneur « C'est un grave péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur. J'ai agi comme un fou. » Pour le rédacteur de l'Évangile de Luc, en deux versets, avec quelques informations chronologiques, ce rédacteur nous dresse le climat sous-jacent de la montée vers Noël. Un climat de contestation, de lutte politique et théologique. Et au milieu de tout cela, un couple de petites gens va traverser les lignes et s'en aller vers Bethléem, en laissant derrière eux tous les bruits de ces agitations. Parce qu'ils se mettent en route. Joseph en premier, accompagné de Marie enceinte. Le texte nous dit que Joseph doit aller à Bethléem pour se faire recenser dans la ville de ses ancêtres. Et le texte utilise ce verbe « monter », « monter à la ville de David ». Et pour nous, dans 2 semaines, vers quoi, vers qui monterons-nous ? Peut-être à la montagne, avec la voiture chargée de cadeaux. Peut-être dans un avion pour rejoindre des contrées lointaines. Ou encore vers une famille à visiter, des proches à retrouver. Vers quoi montons-nous ? Vers qui montons-nous pour ce temps de l'Avent afin de rejoindre Noël ? Vers la ville de David pour rejoindre la grande histoire du peuple de Dieu. Vers une pause amplement méritée, à nous qui arrivons au bout du rouleau de l'année écoulée. Vers les retrouvailles joyeuses ou plus tendues des familles dispersées le reste de l'année. Ou encore vers le vide, parce que la solitude, la maladie, la dépression jette violemment dans l'obscurité. L'obscurité, c'est justement à cette période de l'année, après le solstice d'hiver, où les jours recommencent à s'allonger, que la date de Noël a été sciemment choisie. Parce que Noël, Dieu sur terre, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est sûrement dans la Bible l'évangile de Jean, l'évangile préféré de Bertin, qui en parle le mieux. Vous avez entendu tout à l'heure ces quelques versets du chapitre 3. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais vivront avec lui pour toujours. Souvent, nous arrêtons ici notre lecture. Car la suite, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le condamner, mais pour qu'il le sauve. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là, est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru. La suite est souvent laissée de côté parce qu'elle nous paraît plus difficile. Celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné. Mais est-ce que le texte nous dit que c'est Dieu qui le condamne ? Eh bien non. Celui-ci est déjà condamné, et déjà condamné par lui-même, par son choix de ne pas avoir suivi la lumière. Car juste avant, le rédacteur de Jean vient juste de dire « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour le sauver ». Le texte s'arrête à « Il est condamné ». Tout simplement parce que, en ne croyant pas, en nous coupant de cette lumière, nous nous condamnons tout seuls. Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. C'est à nous de choisir lumière ou obscurité, bénédiction ou malédiction, vie ou mort. Le Christ, lui, est venu uniquement pour nous sauver. Et pas pour nous condamner. Quelle grâce ! Et le verset 19 poursuit. Voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ne vont pas vers la lumière parce qu'ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Et on voit clairement qu'ils écoutent Dieu. C'est nous et nous seuls qui vivons notre vie. Personne n'est à notre place. C'est à chacun de nous qu'il revient la responsabilité de choisir son chemin. Pour vous, Bertin, votre vie a été parsemée de moments douloureux. Et finalement, c'est vers la lumière que vous choisissez de marcher pour écouter votre Seigneur. Dieu ne nous condamne jamais. Nous avons assez de nous-mêmes pour le faire. C'est cela, choisir la nuit et refuser la lumière, se condamner soi-même. Et Bertin, en recevant le baptême, désormais pour vous, ce signe de la grâce vous le rappellera chaque jour. L'Esprit de la lumière du Christ est avec vous. Pendant ce temps de l'Avent, l'obscurité se fait chaque jour de plus en plus présente. Monter vers Noël, c'est alors peut-être simplement avoir conscience de ses ombres et de ses lumières. Car monter vers Noël, c'est peut-être aussi prendre un risque, celui parfois de trouver porte fermée, comme Marie et Joseph en font l'expérience. Alors, les bruits des étrangers et des révoltés deviennent aussi à leur manière des bruits de Noël. Des bruits que nous pouvons combattre avec plus de solidarité, de justice et de responsabilité. Il nous reste 16 jours pour monter de Nazareth à Bethléem. 16 jours d'attente pour l'Avent, afin d'entamer ce voyage de l'obscurité vers la lumière. 16 jours pour que les bruits de détresse se transforme en cri de joie. Le premier bruit de Noël, finalement, c'est un son de vie, celui du cri primaire de la vie qui s'insuffle dans les poumons et qui jaillit dans la nuit. Le son de Noël par excellence est celui de Dieu qui vient à nous obstinément dans le creux de nos nuits. Cri puissant de vie dans nos fragilités. Alors montons, montons vers ce cri. Entendez, il vient. Amen.